sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, et on commence par les titres que vous allez développer aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le forum des métiers du tourisme s'est ouvert ce matin à l'Assemblée. Beaucoup de jeunes en recherche d'emploi ou de formation. Et alors que le pays veut former sa future manœuvre touristique, nous avons demandé au public du forum quelle confiance vous accordiez dans la réalisation des futurs grands projets touristiques du pays. Réponse assez pessimiste, vous l'entendrez. La grande majorité des assureurs ne propose plus de nouvelles souscriptions pour les risques cycloniques. Une position commune depuis la semaine dernière et l'annonce de Météo France et du Haut Commissariat sur les risques pour la saison à venir. Vous l'entendrez, le président du comité des sociétés d'assurance, Alain Lebris, justifie cette position par le trop grand risque encouru. Le Haut Commissaire a réagi ce matin en affirmant que le moment n'était pas au désengagement pour les professionnels. Vous l'entendrez. Enfin, nous parlerons du budget de l'Outre-mer dans ce journal. La ministre Georges Pollanche va présenter les grandes lignes de son budget hier à Paris. Elle assure que la défiscalisation sera sécurisée, pas assez pour rassurer les entrepreneurs qui craignent pour l'après 2016.
Et on démarre pour parler tourisme avec le forum qui s'est ouvert ce matin à l'Assemblée.
Un forum pour préparer au métier du tourisme dans l'optique des grands projets du pays, Mahana Beach ou Eco Park. Des projets sur le papier, mais peu de réalisations pour l'instant. Une question que nous avons posée ce matin aux visiteurs du forum. Croyez-vous à la réalisation de ces grands projets? Réponse assez pessimiste, vous allez voir.
Confiance, oui et non. Tu sais, ils ont tellement promis plein de choses, gouvernement après gouvernement pendant des années. Alors à qui on va faire confiance aujourd'hui? Nous, la nouvelle génération d'aujourd'hui qui veulent faire quelque chose pour le pays, et quand tu vois dès que ça a changé de gouvernement et puis après tout saute à l'eau et il n'y a pas de suivi après, et c'est dommage.
Oui et non, je sais pas, c'est difficile comme question, parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que j'habite en Polynésie et qu'on nous annonce toujours que ça va aller mieux l'année prochaine et on en est au même point voire pire, donc non. Mais d'un autre côté, je sais quand même qu'il y a des gens motivés, non pas au sein du gouvernement mais au sein du GIE Tourisme par exemple, donc il y a des volontés. Le problème, c'est la mise en place de ces volontés qui n'est pas au point. Pour donner réponse, je dirais non. Dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait un vrai développement à l'avenir, sauf si à un moment donné, il y a des gens qui arrêtent de mettre des bâtons dans les roues aux autres, quoi.
Ben oui, d'un côté, avec le nouveau projet Mahana Beach qui se forme, on entend qu'il va avoir plusieurs emplois et tout. Mais bon, après, ça reste à voir les compétences qu'il faut. C'est pour ça que dans l'école, il faut aller assez loin. Non, mais pour l'instant, j'ai confiance en ce que ça va donner.
J'aimerais avoir confiance, mais je reste un peu sceptique quand même. On voit qu'il y a quand même pas mal de difficultés. On voit aussi que ça prend du temps. Visiblement, il y a toujours un nouvel écueil. Je suis formateur de jeunes et c'est très sympa. Je les amène quand même effectivement à cette journée. Pour autant, est-ce que c'est facile, même en tant qu'adulte, de faire prendre confiance à ces jeunes dans ces projets? Parce qu'eux-mêmes n'en voient pas tellement l'aboutissement. C'est vrai que c'est long, ils comprennent pas trop les enjeux politiques.
Non, moi j'ai pas confiance. Parce que depuis un an, ils ont parlé de ça. Et ça pas, il y a pas d'action.
Ça n'aboutit à rien, quoi, pour l'instant.
Le ministre du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou, était présent ce matin au forum. Il dit comprendre ses doutes, mais demande aux Polynésiens de se préparer et d'avoir confiance, au moins en eux.
C'est plus une question simplement d'espérer, c'est une question de se préparer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec ce forum. Donc pour se préparer, il faut croire au-delà d'espérer. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui cherchent des emplois. Les emplois, on va les avoir au travers de nos projets. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans l'avenir, dans notre pays, dans ses potentialités. Nous sommes là pour concrétiser la volonté des Polynésiens à voir ce développement touristique se mettre en œuvre. Je ne sais pas si ce que je dis a une portée pour redonner confiance, mais écoutez les mots et regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oui, j'ai confiance en l'avenir et je suis heureux pour les Polynésiens.
Et sachez en tout cas que si vous voulez en savoir plus sur les métiers du tourisme, le forum est ouvert encore cet après-midi dans le hall de l'Assemblée.
Et on parle risque cyclonique à présent pour commencer avec des assureurs qui n'assurent plus.
Les assureurs du Fénois n'ont pas perdu de temps. Vendredi dernier, au lendemain de l'annonce du fort risque cyclonique qui pèse sur la Polynésie, les professionnels réunis au sein du comité des sociétés d'assurance ont décidé de suspendre les souscriptions pour les risques cycloniques. Une position confirmée hier matin par les assureurs et le président du COSODA avant un léger revirement de situation hier après-midi. Écoutez le reportage de Vaïté Ural-Ipambrin.
Après l'annonce du risque cyclonique supérieur à 90%, la rédaction de Radio 1 a pris l'initiative d'appeler quatre grandes assurances du Fénois. La réponse de ces dernières a été la même. la direction a décidé de suspendre la garantie suite à l'alerte cyclonique.
C'est dû à quoi? C'est suite à l'alerte cyclonique qu'il y a eu certainement et la direction a décidé de suspendre cette garantie.
C'est légal?
Bien sûr.
Désolé, madame, nous avons reçu une note de la direction comme quoi nous n'assurions plus les maisons du moins pour les risques cycloniques.
Suite à l'annonce qui s'est passée, donc la direction a annulé d'assurer le tempête cyclone.
Mais c'est légal, ça?
Oui. En fait, tous les directeurs de chaque compagnie d'assurance, ils se sont regroupés et ils ont décidé d'annuler la tempête cyclone depuis vendredi dernier.
Ben moi, je suis pas preneur, madame. C'est pas la peine qu'on gaspille de l'argent au téléphone. Personne vous assurera, madame.
Ah bon, et pourquoi?
Parce qu'on est en alerte cyclonique et on ne prend plus les assurances maison. Chacun fait comme il veut, hein. Nous sommes des compagnies d'assurance ou des sociétés privées, des courtiers. On fait comme on entend, hein.
Contacté hier matin, le président de la COSODA, Alain Lebris, a confirmé l'information à Radio 1 en justifiant cette position par le risque encouru par les assureurs.
À partir du moment où, effectivement, on est dans une liberté contractuelle, les gens sont libres de venir s'assurer chez nous, nous aussi, nous sommes libres de les assurer ou de ne pas les assurer, oui, effectivement.
Et donc là, pour vous, c'est normal d'avoir arrêté toutes les nouvelles souscriptions pour des risques cycloniques?
C'est extrêmement normal, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas évaluer les risques, et que le prix qui était pris jusqu'à présent ne correspond plus à la réalité.
Comment ça se fait que le grand public n'a pas été averti de ça?
La décision vient d'être prise, tout simplement, et que nous allons, chaque compagnie aujourd'hui, communique avec ses propres assurés.
Reste que cette décision commune des assureurs a de quoi surprendre au moment où il n'est question que de renforcement de la concurrence au Fénois. Et justement, après notre interview d'hier matin, une réunion a été menée entre les adhérents de la COSODA, coup de téléphone à Radio 1 et petit changement de cap des assureurs en début d'après-midi. Un certain nombre restreint de compagnies continueraient à souscrire des assurances concernant les risques cycloniques.
Certaines compagnies ont pris la décision d'arrêter complètement la souscription. D'autres le font de façon extrêmement sélective en ne prenant que des risques qui sont véritablement anticycloniques. Donc il y a deux positions aujourd'hui au niveau des compagnies. Certaines compagnies vont dire « je ne souscris plus du tout parce que j'ai déjà beaucoup de risques et ça suffit comme ça ». Donc ils vont arrêter. D'autres vont dire « je vais encore pouvoir garantir un certain nombre d'affaires ». Mais je ne pourrais faire que des affaires que j'aurais bien vérifiées et sélectionnées et qui ne présentent pas des risques trop importants.
Qu'est-ce qui a fait changer la vie des assureurs, en fait?
En termes de primes, on devrait prendre des primes beaucoup plus importantes pour assurer le même risque, parce que le risque est beaucoup plus important. À partir du moment où le risque devient presque certain, eh bien la prime doit être logiquement calculée en conséquence.
Mais entre ce matin et cet après-midi, quelques heures seulement se sont passées et tout d'un coup, les propos des assureurs changent. Pourquoi?
Non, les propos des assureurs ne changent pas. Certaines compagnies ont décidé d'arrêter complètement la souscription en fonction de leur propre portefeuille et de ce qu'ils ont déjà engrangé en termes de risques cycloniques. D'autres considèrent qu'ils peuvent encore prendre des risques et donc ont décidé de continuer à souscrire.
Et ce matin, le haut-commissaire de la République a réagi à cette position des assureurs. En marge de sa visite officielle à Itiotera, le représentant de l'État Lionel Beffre a demandé davantage de solidarité en cette saison cyclonique. Écoutez.
Je n'ai pas la charge de faire une tutelle quelconque sur les assurances. Simplement, ce qu'il faut observer, c'est qu'on a indiqué qu'il y avait un risque fort. Et c'est pas au moment où il y a un risque fort qu'il doit y avoir un désengagement de qui que ce soit. Il faut que chacun assume son rôle. Je comprends les difficultés que peuvent avoir les assureurs, mais en même temps, il doit y avoir un souci quand même du collectif qui doit imprimer les esprits. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui.
Actualité judiciaire à présent, le député Jean-Paul Touaïva a été entendu hier par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Team Lead.
Et c'est par un communiqué laconique que Jean-Paul Touaïva a révélé lui-même à la presse qu'il venait de passer la matinée d'hier en audition libre à la section de recherche de la gendarmerie. Une audition menée dans le cadre de l'affaire Team Lead, une enquête préliminaire ouverte en février 2015 à la suite d'un reportage de nos confrères de Polynésie Première qui démontrait l'inactivité de l'association la mieux dotée par le versement de la réserve parlementaire de Jean-Paul Touaïva. Selon nos sources, les enquêteurs ont interrogé non seulement le président de l'association Team Lead, mais aussi plusieurs autres responsables d'associations bénéficiaires de subventions de la réserve parlementaire du député polynésien. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers des soupçons de détournement de fonds publics de près de 31 millions de francs. 31 millions de francs reversés en liquide par les responsables d'associations au député Jean-Paul Touaïva. Selon nos sources, les enquêteurs ont recueilli plusieurs témoignages de présidents d'associations mettant en cause le député. Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté contester la réalité de ces détournements lors de son audition d'hier, nous confirme une source proche du dossier. Et vu la relative simplicité des faits reprochés, Jean-Paul Touyva et le président de l'association Team Lead devraient être convoqués devant le tribunal correctionnel sans même passer par l'ouverture d'une information judiciaire. Pour l'heure, l'élu de l'Assemblée nationale est bien entendu présumé innocent et son immunité parlementaire le protège de toute mesure coercitive.
Il est midi 10, nous allons marquer une courte pause dans ce journal et Antoine Samoyo conclura le journal dans un instant.
Premier sur l'info.
On reprend ce journal pour parler du budget des Outre-mer pour 2016.
La ministre Georges Pollangevin a organisé une conférence de presse hier à Paris pour présenter le budget 2016 des Outre-mer. On y parle logement social et régime de solidarité, mais aussi sécurisation de la défiscalisation pour l'année 2016. Notre correspondante à Paris, Radija Benouataf, était présente.
Un budget de confiance, un budget d'engagement, un budget préservé. C'est le message qu'a voulu faire passer la ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin, lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi de finances qui se tenait ce mercredi matin, rue Oudinot. Le montant total des crédits de la mission Outre-mer s'élèvera à 2,18 milliards en crédits de paiement, contre 2,17 milliards en 2015, soit une très légère progression. On écoute la ministre.
Nous avons un budget qui globalement est préservé, ce qui, dans un contexte de diminution des ressources partout ailleurs, mérite d'être noté et montre l'intérêt que le président de la République et le Premier ministre ont envers les Outre-mer. Donc dans ce budget, comme je l'ai indiqué, nous avons conservé de manière scrupuleuse tous les outils que nous avons pour pouvoir améliorer la vie dans les Outre-mer et remplir les carnets de commandes des entreprises. Par conséquent, tout ce qui est logement, tout ce qui est programme 123, sera totalement réservé, voire à la hausse.
Le programme 123, ce sont les mesures en faveur du logement social, le soutien à l'investissement public, le soutien aux collectivités ou encore la solidarité, comme par exemple en Polynésie, le RSPF. Mais quand on augmente d'un côté, il faut diminuer de l'autre. C'est donc sur le programme qui concerne principalement les entreprises que l'effort se portera, et plus précisément sur les exonérations de charges. La ministre explique ce choix.
Pourquoi nous avons fait ce choix? C'est parce que, par ailleurs, les mêmes entreprises bénéficient de ce que nous avons obtenu en termes de CICE renforcé. Elles bénéficient aussi de baisses des allocations familiales. Par conséquent, au total, nous savons que les entreprises dans les Outre-mer auront un apport d'environ 200 millions d'euros pour soulager leur trésorerie. Par conséquent, nous considérons que c'est là qu'elles peuvent faire l'effort et par conséquent arriver à remplir leurs engagements et remplir leur carnet de commandes et faire travailler et donc par conséquent avoir une activité qui soit satisfaisante en termes d'emploi dans les Outre-mer.
La Polynésie, elle, bénéficiera de 12 millions d'euros par an d'accompagnement dans ses efforts de redressement. La défiscalisation est sécurisée et le RSPF, régime de solidarité de la Polynésie française, qui avait été supprimé sous Nicolas Sarkozy, est rétabli pour 3 ans, nous rassure Georges Pollangevin.
Dorénavant, effectivement, nous avons budgétisé l'aide ou RSPF qui avait été suspendue il y a quelques années. Par conséquent, c'est une manière d'affirmer notre confiance dans le redressement actuellement en route en Polynésie. Et par ailleurs, je pense que dans le budget, vous aurez aussi des motifs de satisfaction pour voir que la défiscalisation est prolongée d'une manière satisfaisante et permettant de sécuriser les opérations.
Enfin, la nouveauté de ce budget ultramarin concerne la continuité territoriale appliquée à l'aide aux familles endeuillées. En effet, il sera dorénavant possible de bénéficier d'une aide pour rapatrier un corps de la métropole en Outre-mer. Les conjoints et enfants pourront également bénéficier d'une aide pour alléger le coût de leur billet d'avion s'ils doivent enterrer leurs proches au Fénois. Cette aide forfaitaire s'appliquera aux territoires qui bénéficient actuellement de la continuité territoriale, ce qui est le cas de la Polynésie.
Et à la suite de cette présentation, les entrepreneurs du Fénois ont réagi. Le MEDEF, la CGPME et la CCISM tiennent une conférence de presse commune cet après-midi à 14h. Ils demandaient davantage d'engagement de la ministre des Outre-mer sur le long terme pour la défiscalisation. Et ils craignent de voir le dispositif disparaître après 2016. Plus d'informations dès cet après-midi sur notre antenne et sur le site radio1.pf.
On termine ce journal par une mise en bouche avec un concours international de gastronomie.
En effet, le lycée hôtelier recevra le mois prochain le concours international de cuisine des lycées pour la région Asie-Pacifique. Deux élèves ont été choisis pour représenter la Polynésie. Il s'agit de Hiona et Keanu. Tous les deux sont en terminale bac pro cuisine et la pression est importante. D'une part parce que l'équipe tahitienne avait obtenu une médaille d'or l'an dernier à ce concours et d'autre part parce que cette année c'est Tahiti qui est le pays hôte de la compétition. Sept pays d'Asie-Pacifique concourront, parmi lesquels le Japon, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, les îles Cook et la France avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et les deux cuisiniers en herbe affronteront 22 autres élèves. Hier, ils ont présenté les plats qu'ils prépareront pour ce concours. Au menu, parapéoué, crevettes de la presqu'île et vanille. Parce qu'en tant que pays hôte, Tahiti a pu soumettre ses produits pour la compétition, comme l'explique Yves Diras, professeur de cuisine et accompagnateur des élèves.
Le concours se résume pour la partie cuisine à une liste d'ingrédients qui est commune à toutes les équipes et sur lequel chaque équipe a la possibilité de choisir les ingrédients qu'il veut. Les équipes ont une heure pour réaliser quatre assiettes et avec le prix de l'assiette qui est imposé également. Ils ne doivent pas dépasser un certain prix. Ensuite, c'est vrai que comme on est l'équipe qui accueille, on a pu suggérer le produit principal à travailler. Les critères sont bien sûr la précision dans les tailles, mener à bien des cuissons, l'hygiène qui est très importante, l'équilibre alimentaire du plat, les saveurs et puis l'aspect, la présentation. Voilà. Il y a trois médailles et donc il y a trois groupes de points. Il y a de 70 à 80 points, c'est médaille de bronze, de 80 points à 90 points, c'est médaille d'argent et 90 à 100, il y a médaille d'or.
Et au fait noir, Hiona et Keanu se sont tous deux portés volontaires pour participer au concours, mais leur professeur avoue volontiers que le choix était évident vu leur professionnalisme. Remporter ce concours pourrait ouvrir des portes aux deux passionnés qui sont déjà bien fixés sur la suite de leur parcours.
Ben, partir à l'étranger, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, aller dans un autre lycée, faire un BTS, mais c'est tout.
Bah, moi, je vais continuer ici, au lycée, en BTS. Bon, plus tard, bien avant, je souhaitais être professeur, hein, aller jusqu'au bout. Mais bon, il y a mon petit frère qui vient d'arriver cette année au lycée. Il est pâtissier, enfin, il fait une formation de pâtissier. Et bah, du coup, j'ai pensé à monter plus tard, peut-être à un restaurant avec lui. Il ferait pâtissier et cuisine.
Hiona et Keanu qui étaient interrogés par Valentine Bluet. Et sachez que l'ensemble des participants arrivera à partir du 1er octobre pour ce concours. Durant une semaine, ils visiteront les lieux culturels et gastronomiques de Tahiti Morea. Des masterclass en boulangerie et pâtisserie française seront aussi réalisées. Et le concours se déroulera en deux manches le vendredi 9 octobre. Il est 12h18.